Radio Libre en Périgord.
L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard. Fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? Comme des girouettes rouillées, on sait plus comment s'orienter.
Bonjour à tous et à toutes, l'alternative est de retour.
RLP.
Tout se passe bien, on a du soleil. Pour cette rentrée scolaire, nous avons des invités qui viennent de Bergerac, d'un milieu qui s'appelle le Café des Enfants. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Bonjour Cassie. Bonjour Anaë. Bonjour Pierre. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va bien.
Okay.
Ça va bien.
Je vais vous demander de vous présenter rapidement en quelques mots. Vanessa,
je
tu veux commencer?
Regarde. Alors moi, je m'appelle Vanessa. Moi, je suis à l'origine de la création de l'association Pitchoun et Grand, qui a été créée maintenant il y a une dizaine d'années. Et donc maintenant, je m'occupe aussi encore de l'association qui s'est étoffée, puisque maintenant, on a des professionnels et on est 4 professionnels, soit 2,3 temps plein aujourd'hui. Voilà, donc je suis assez fière que cette association existe aujourd'hui et qu'elle fasse partie aussi de la Fédération internationale des cafés des enfants de France. Et donc le premier café des enfants qui est sur Paris, qui s'appelle le Café Zoïde.
Fabien?
Moi c'est Fabien, je suis à Pitchoun et Grand en tant que salarié depuis un an et demi à peu près, bientôt 2 ans. Et avant ça je faisais partie du conseil d'administration et je faisais du bénévolat depuis presque le début, il y a 10 ans. Voilà, et aujourd'hui je suis accueillant et animateur à l'asso.
Pierre?
Ok, bah moi c'est Pierre, je viens de Mantes-la-Jolie et Paris, je suis arrivé il y a environ 6 ans. Je suis éducateur de jeunes enfants de formation. Et j'ai emmené mes petits au Café Zoïde, donc qui est un grand café enfant-parent. Donc quand j'ai appris qu'il y avait un café enfant-parent aussi à Bergerac, j'ai foncé, j'ai été embauché, donc je suis très heureux.
Vous avez dit un truc, Pitchoun et Grand et le Café des Enfants, est-ce que vous pouvez m'aider à distinguer?
Alors, Café des Enfants, c'est comme on se reconnaît, et Pitchoun et Grand, c'est le nom de l'association.
D'accord.
En fait, Café des Enfants, ce n'est pas un nom déposé.
RLP.
Ce qui a été
Radio
déposé,
Libre,
par contre, à Paris,
Périgord.
Par exemple, c'est Café Zoïde. Ils ont déposé leur nom. Et d'autres Cafés des Enfants ont chacun leur association. À Grenoble, on a la soupape, on a le Café Méléon. Enfin, voilà, il y a beaucoup de Cafés des Enfants qui ont leur nom à eux. Il y aurait, à un moment donné, je crois qu'il y a eu une cinquantaine de Cafés des Enfants en France qui se sont dit Cafés des Enfants. Il y en a aussi à Périgueux, je crois. Il y en a d'autres en Dordogne. Mais pour l'instant, il y a une fédération, mais c'est pas un nom reconnu.
D'accord, donc vous êtes une asso.
Nous, on est une asso.
Okay. Alors, pourquoi on fait un café des enfants? Il y a quel intérêt?
Alors, l'intérêt du café des enfants, c'est surtout qu'il y ait la place aux enfants, qu'on leur fasse une place dans notre société déjà, dans un lieu fixe au travers d'un local, mais aussi sur des espaces qu'on crée à l'extérieur, des espaces éphémères. Alors, il y a des rues aux enfants qui existent, surtout justement en région parisienne, mais ailleurs, qui permettent de redonner la place à l'enfant, de le remettre au centre de nos pensées, en adaptant les espaces.
Ok. Du coup, un des principes, c'est de... Pardon, Pierre, tu voulais prendre la parole.
Ah oui, moi, je voulais rajouter quelque chose qui me tient à cœur. Après, c'est mon point de vue personnel, mais moi, je trouve fascinant et génial dans les cafés enfants-parents que, justement, des parents de tous les milieux sociaux possibles puissent se retrouver autour d'un truc commun, parce qu'on est tous au pied du mur dès qu'on a un enfant. C'est quelque chose qui n'est pas si facile et naturel que ça, en vérité. Et selon la famille qu'on a eue, selon d'où on vient, c'est parfois très compliqué. Donc d'avoir des parents qui peuvent se rencontrer et discuter autour de plein de situations qu'ils découvrent, je trouve ça génial.
Voilà. Ok. Bah, ce qui me fait poser la question, vous venez de quel milieu social? Vos parents, ils faisaient quoi? Et aujourd'hui, vous vous considérez de quel milieu, Pierre?
Non, moi, je peux répondre. Tu veux y aller, vas-y. Oui, moi, si je commence, je ne m'arrête plus. Mais moi, je suis fils de professeur de français et mon père était un genre d'ingénieur. C'est un peu compliqué. Il a travaillé à l'INRA, donc c'est vrai que c'est...
Ça sent l'espionnage industriel. Et toi, voilà. Tu considères aujourd'hui de quel milieu ?
Ben, moi, je pense que je fais partie de la génération des déclassés, c'est-à-dire que j'étais plutôt classe moyenne, et là, je me cache pas du fait que j'ai rejoint le rang des précaires.
D'accord.
Fabien. Moi, du coup, j'ai grandi en HLM, à côté de Bergerac, et mes parents étaient ouvriers, tous les deux. Mmh. Moi, je me considère dans la classe populaire.
Ouais, ils faisaient quoi à la fin de leur vie, tes parents ? C'était quoi leur métier ?
Mon père était chauffeur, routier, et ma mère était couturière.
Moi, petite, mon père était agriculteur. Ma mère s'occupait de nous, restait à la maison pendant, je pense, une bonne dizaine d'années. Ensuite, ma mère est devenue secrétaire et mon père a dû changer de travail. Voilà, on connaît le contexte de l'agriculture aujourd'hui.
Ouais,
et il est devenu maçon parce qu'il est très débrouillard.
Et quoi, il a une entreprise ?
Il a une petite entreprise, voilà. Il est en mode débrouille.
D'accord. Et comment vous arrivez alors au Café des Enfants professionnellement ?
Moi, je peux parler pour moi. J'étais un enfant compliqué, c'est-à-dire que j'avais des mauvaises notes à l'école et sans doute c'était en lien avec ma mère, c'était compliqué. Et du coup, j'ai découvert l'animation pour me faire des sous et ça m'a beaucoup plu et je trouvais ça très étrange de recevoir une paye en fin de mois là-dessus alors qu'on s'était vraiment amusé tout le mois avec des petits. Donc j'ai trouvé le truc génial et j'avais une collègue qui m'a dit « mais deviens éducateur de jeunes enfants, soit va au bout de ton idée », donc c'est ce que j'ai fait. Et,
D'accord.
Et puis c'est vrai qu'avec le temps, je me dis que c'est quand même la plus grande richesse d'une nation, c'est petit. Et quand on est à l'aise avec les petits et qu'on aime jouer avec eux et qu'on aime les comprendre, ça passe tout seul, hein, c'est un métier passion pour moi.
D'accord. Comment est-ce que tu arrives à... Pareil, l'animation ?
Alors moi, non. Moi, j'ai fait un parcours. Alors moi, l'école, c'était pas trop mon truc. J'avais ni brevet des collèges, ni bac. Et puis, j'étais faire du bénévolat à John Bost, fondation John Bost à La Force. Et du coup, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant d'accompagner des personnes avec des gros handicaps et d'amener un peu la vie, quelque chose de joyeux dans ces milieux. Et donc, j'ai fait la formation d'aide médico-psychologique. Après, j'ai fait la formation de monitrice éducatrice. Après, j'ai fait la formation d'éducatrice spécialisée. Et là, je me suis retrouvée maman. Et donc, j'ai créé l'association Pitchoun et Grand. Et j'ai pu, grâce à ce que j'ai développé, avoir un diplôme de responsable d'unité d'intervention sociale. Donc, le diplôme pour gérer des petites structures. Ouais. Voilà.
Fabien ?
Et pour moi, pareil, l'école, c'était pas trop ça. Je savais pas trop quoi faire comme métier. J'ai fait beaucoup de travail saisonnier, agricole, et beaucoup de périodes de chômage aussi. Et après, j'ai rencontré Vanessa, et vu que quand j'étais au chômage, en fait, je faisais du bénévolat dans des assos, différentes assos. Et j'ai rencontré Vanessa, qui venait de créer l'association. Donc voilà, j'ai commencé à faire un peu de bénévolat, et puis voilà, petit à petit, je me suis un peu plus engagé au sein de l'asso, jusqu'à ce que... Vanessa me propose un poste, donc il y a 2 ans.
D'accord.
Voilà, vu que j'étais toujours sans emploi, j'ai accepté. Et depuis, je fais partie de l'équipe.
Alors, les principes qui en découlent, c'est quoi ? Vous avez des principes, c'est une asso, donc vous avez un projet éducatif, probablement un projet pédagogique.
Alors, en fait, déjà, on a une charte des cafés des enfants. Qui a été... Alors nous, on n'est pas à l'origine de l'écriture de cette charte, mais on s'y retrouve sur beaucoup de points. Elle a été créée par les premiers cafés des enfants, sachant qu'à Paris, ils ont plus de 20 ans d'existence. Hein, donc nous, à côté, on en a moins. Et en fait, cette charte, elle définit les droits de l'enfant, elle définit l'éducation populaire, l'accueil de tous, le fait de ne pas être forcément sur de la consommation. Voilà, enfin, il y a vraiment des principes fondateurs qui sont assez intéressants et sur lesquels les cafés des enfants sont censés se retrouver.
On peut en extraire un ou deux. Bon, les droits de l'enfant, on connaît, pour ceux qui le connaissent, il y a une cinquantaine de points. Mais là, sur vous... l'asso, on peut en sortir un ou deux ?
L'éducation populaire, je pense que c'est quelque chose d'intéressant aussi, sur lequel...
Comment vous l'interprétez, l'éducation populaire ? Si vous deviez la synthétiser en une phrase. Parce qu'elle a une synthèse, hein, mais sur Wikipédia. Mais...
Moi, je pense que c'est le fait de que tout fait éducation, en fait, que chaque culture peut être aussi de l'éducation, qu'on peut apprendre des uns et des autres. Et pour moi, ça, c'est important, c'est de se dire que faire la cuisine, il y a différentes façons de faire la cuisine et qu'on peut apprendre des uns des autres. Pareil sur l'éducation qui aide, celle qui aide à grandir. Chacun a des points forts sur comment il peut... Il peut apprendre à l'autre, on le voit au niveau des échanges entre parents, on voit ce que chacun, comment chacun peut aider son enfant à grandir. Et moi, je crois beaucoup en la valeur de l'exemple. Voilà. Quand on est fatigué, avec des enfants qui pleurent, avec des enfants qui crient, il suffit des fois de regarder comment le parent d'à côté fonctionne. Pour tout de suite trouver une solution, l'appliquer, pas forcément consciemment, mais voilà, se dire qu'il y a, différentes solutions et façons de faire.
Tu parlais de l'imitation. Vous savez de qui a écrit les lois de l'imitation ?
C'est pas Piaget ou non ?
C'est Gabriel Tarde.
Ok.
Alors tout n'est pas, je pense, juste encore actuellement, mais le principe étant que l'enfant il grandit par le biais de l'imitation. On va glisser vers une petite, un petit moment musical. Vous avez choisi plusieurs musiques.
RLP.
On a Driss, qui est un habitant de notre quartier de Jean Moulin, là où est implantée notre association, qui nous a créé une chanson. Et le cœur de cette chanson, c'est des enfants de l'association.
Hey, j'ai écrit ce petit texte pour vous parler d'une petite maison. Une petite maison qui transpire la joie et la bonne humeur. Cette petite maison s'appelle
Radio Libre en Périgord.
Les journées grandes,
ils sont là pour partager.
Les journées grandes,
entre parents, enfants et accompagnants.
Les journées grandes,
ils sont là pour partager.
Les journées grandes,
entre parents, enfants et accompagnants.
Et les petites maisons.
Sans bon le gâteau et le café.
Et la petite maison
où il propose toujours plein d'activités.
Les journées grandes,
ils sont là pour partager.
Les journées grandes,
entre parents, enfants et accompagnants.
Les journées grandes,
ils sont là pour partager.
Les journées grandes,
entre parents, enfants et accompagnants.
Les journées grandes.
Allumer, cuisiner, rigoler, discuter, s'amuser, échanger, et tout ça chez
les journées grandes.
Ils sont là pour partager
les journées grandes.
Entre parents, enfants et accompagnants.
Les journées grandes.
Merci à tous les acteurs de cette petite maison.
Les journées grandes.
Pour eux, je veux tous vous entendre chanter le refrain qui fait
les journées grandes.
Tous
De retour avec Pitchoun et Grand, donc nos invités, Vanessa, Anaé, Pierre, Fabien, Cassie.
Rebonjour. Radio Libre en Périgord.
La place des familles, elle est comment chez vous ?
On œuvre pour, c'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup à l'aménagement de l'espace et au fait que les parents soient le mieux accueillis possible. Après, moi je vais déborder peut-être sur les bénévoles parce qu'on a beaucoup de familles et de jeunes mamans souvent qui rejoignent l'association et qui aident aussi, et ce qui crée un genre de vie communautaire intéressante.
Après, l'idée, c'est quand même toujours surtout de laisser la place à l'enfant, que l'enfant puisse trouver sa place à lui, et parfois aussi le fait que l'enfant puisse jouer dans des espaces, que le parent puisse se poser, boire un verre, ça laisse aussi plus de place à l'enfant parfois. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les enfants puissent avoir leur petit lieu de socialisation à eux aussi. On a des parents qui proposent des choses, on a une activité, un temps d'échange sur l'allaitement là, qui va se remettre en place par une maman qui va proposer ça. Et on a des brunchs aussi pour les créés par les bénévoles qui vont se mettre en place, où il y aura un temps de préparation de cuisine fait par des...
D'accord, ils ont une place dans l'organisation, ils peuvent proposer des choses.
Ouais. Okay. Voilà.
Sur les relations, tu parlais que c'est des locaux qui sont financés une partie par la CAF, etc. Vos relations à l'administration, à la mairie déjà, c'est quoi ?
Alors nous, c'est vrai qu'on a été soutenus tout de suite par la ville, qui nous a mis à disposition une petite maison.
Super.
D'où les chansons « La petite maison ». Alors maintenant, on n'est plus dans une petite maison, mais l'âme reste de la petite maison. C'est une petite maison qui existait même avant les HLM du quartier, et donc qui était très, très repérée par les familles. Alors malheureusement, un peu vieille et vétuste, mais qui a quand même nous a permis de faire 10 ans à l'intérieur, et qui avait son charme aussi. Et donc c'est vrai que là maintenant on a un nouveau local qui a été dans lequel on est depuis septembre dernier.
D'accord.
Voilà.
Ok. Et du coup, la mairie vous aide. Est-ce qu'il y a d'autres aides qui sont en place ?
Alors on a d'autres aides. C'est vrai que tout à l'heure j'allais revenir dessus. En fait, nous, alors, on dépend d'une charte des cafés des enfants, mais aussi on a des agréments. On a des agréments. C'est vrai que les cafés des enfants, pour fonctionner, il faut qu'on soit reconnu. Et donc, on est... Alors, les cafés des enfants sont ou reconnus espace de la vie sociale par la CAF, ou reconnus lieu d'accueil enfants-parents par la CAF. Nous, D'accord. On a la chance d'avoir ces deux agréments, ces deux reconnaissances. Donc, on est espace de la vie sociale au niveau du local, d'où les aides de la CAF pour ce nouveau local. Et ça, cette reconnaissance-là, on l'a depuis 2020. Et c'est un agrément là qu'on va repasser en fin d'année pour les 4 ou 5 années à venir.
D'accord.
Ce qui n'est pas évident parce qu'à Bergerac, on a aussi des centres sociaux. Donc du coup, l'intérêt aussi, c'est de travailler ensemble pour montrer l'importance et l'intérêt d'avoir un espace de vie sociale en plus sur les quartiers prioritaires. D'accord. Et cet agrément-là, c'est aussi pour nos itinérances, puisqu'on fait pas mal d'itinérances dans le jardin public, parfois au niveau des lieux de vie des HLM, parfois devant des écoles. Et ça, ça fait partie de notre espace de vie sociale.
D'accord. Pierre,
ouais, moi, je voulais juste rajouter je trouve que c'est très intéressant aussi cette idée de rompre l'isolement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits ici, de petits villages, de bleds, où y a des jeunes parents qui sont très isolés, en fait. Et je trouvais très intéressant qu'on ait justement ce LAEP itinérant pour répondre à ça.
Par rapport aux subventions ou à certaines commandes institutionnelles qui viennent des subventions, parce qu'en fait, quand on touche quelque chose, il faut qu'on réponde à quelque chose. Est-ce que des fois, vous avez des désaccords ? Comment vous gérez un peu, vous construisez comment les compromis ?
Après, c'est les rencontres aussi avec les différents, on peut dire, partenaires et financeurs. Après, c'est vrai que la CAF, du coup, c'est assez cadré au niveau des demandes, mais on rentre tout à fait dans ces demandes-là, avec des besoins qui ont été repérés par la politique de la ville, qui sont en partie le soutien aussi sur la parentalité, sur l'éducation. Ça en fait partie, d'où aussi notre place.
En fait, si vous deviez synthétiser... votre action, vous diriez quoi dessus ? En une ou deux phrases, ça a vocation à organiser quoi ?
Des espaces de vie, tout simplement. Je vois des fois, on a fait des soirées pizza sur le quartier, voilà, qui sont ouverts à tout le monde, où du coup, on pense toujours à créer un espace de jeu pour les enfants.
Mais les galeries marchandes de Leclerc aussi, c'est des espaces de vie.
Alors, on est des professionnels, hein. C'est-à-dire qu'on parlait de formation, nous on a été formés, c'est pour ça aussi peut-être qu'on répond au mieux aux attentes et aux besoins des mairies. Et... Mmh. Donc déjà on a quand même une formation qui nous permet de voir les problématiques et de comment y répondre.
Ouais. Après moi je dirais pas que ça, enfin c'est pas que la question professionnelle, je pense que c'est plutôt la question humaine en fait, d'être avec l'autre. Oui. Et j'aime beaucoup Anne-Marie du Café Zoïde qui disait qu'elle voulait pas d'éducateurs dans son équipe mais plutôt des artistes. Anne-Marie, parce que pour elle ce sont les seuls qui ont une âme d'enfant. Voilà, l'idée c'est vraiment de profiter et de créer quelque chose qui parfois peut être court ou pas.
Ok, et du coup quel type de population vous recevez ?
Moi je crois qu'on brasse du très large, c'est-à-dire qu'on a vraiment des populations de tous les milieux sociaux. J'avais rarement vu dans tout mon passé professionnel une population aussi éclectique, aussi différente. Donc moi j'en suis très fier d'être en capacité de donner envie à des gens de venir, ou en tout cas de rencontrer des parents qui viennent vraiment de tous les milieux sociaux et de toutes les communautés différentes. Hein,
c'est vrai, vous avez des gens de cultures différentes qui viennent.
Alors après, oui, après c'est vrai qu'on fait vraiment en sorte que la porte soit ouverte, et même d'aller dehors au maximum, sachant qu'on a une aire de jeu financée, qui a été financée par le département, quand c'était, alors je ne sais plus comment s'appelait ces projets-là du département, enfin c'était un projet qui a été porté par une enfant et qui a récolté 20 000 euros et qui a, du coup on a une espace de jeu grâce à elle, hein, grâce à Gaïa. Mmh. Et du coup en fait cette aire de jeu est pour les enfants du quartier, mais nous permet aussi d'aller en extérieur, sachant que là la mairie nous a fait en plus un petit parc avec de l'herbe, des arbres, qui est plutôt agréable.
Vous avez des riches, des pauvres, vous avez
des grandes bourgeoises.
On a des enfants avec des handicaps. Pauvres. Oui, on a de l'IME, le CESAD, qui viennent avec des enfants aussi, avec des handicaps. On a aussi des familles de l'aire d'accueil qu'on va rencontrer avec le LAEB, qui viennent aussi nous retrouver sur notre espace fixe. Voilà, on est sur un quartier où il y a des familles de diverses cultures et origines, de toute façon, qui est le quartier Jean Moulin, à Bergerac, qui est vraiment un quartier où... Pendant l'ANRU, il y a eu les quartiers qui ont été démolis. Alors nous, à Bergerac, c'est Lacat et Naïac. Mais par contre, Jean Moulin, c'est le seul quartier où ils ont gardé les bâtiments, les HLM. Et où, du coup, les familles sont restées. Et il est resté un petit peu cette vie de quartier où il y a quand même des enfants qui vont jouer tout seuls dans l'école, qui restent ouvertes le soir et en week-end, qui vont jouer au foot, font leurs petites règles, etc. Qui ne jouent pas qu'au foot, d'ailleurs, hein, d'autres jeux. Mais en tout cas, il reste quand même une vie de quartier qui est assez intéressante, où il y a pas mal de mamans seules ou d'enfants qui restent quand même sur ce quartier, où il y a quand même encore, je trouve, de la solidarité.
D'accord. Et les tarifs de l'accueil, c'est fait, vous le construisez comment, c'est quoi ?
Il y a une adhésion.
C'est toi, Fabien, le financier, pardon.
C'est pas moi. Mais...
Je t'attendais pas.
On m'a regardé. y a une adhésion à l'association qui est de 10 euros par an et par famille. Et ça peut être aussi au mois ou à la semaine. Au mois, c'est 2 euros, je crois, et 1 euro à la semaine. Mais voilà, c'est plus symbolique. Et après, pour les lieux d'accueil enfants parents itinérants, là, c'est gratuit.
Voilà. D'accord. En pédagogie, ça donne quoi, le Café des enfants ? Vous avez commencé à en parler. Est-ce que vous considérez que vous êtes sur des méthodes actives, par exemple ?
Il y a de ça. Hein.
Et de quelle manière ?
Il y a de ça, de fait.
Et de quelle manière ? Est-ce que, par exemple, les enfants créent eux-mêmes leurs règles de vie ?
Bah, nous, on a plusieurs soucis en un. C'est-à-dire qu'on a, on accueille énormément de classes différentes, de classes d'âge. Donc on a vraiment des petits de 3, 6, 8 mois qui peuvent aller jusqu'à 5, 6, 7 ans. Donc l'éventail est très large pour pouvoir proposer une méthode rigide. Donc moi je pense, enfin c'est comme ça que je vois les choses, on réfléchit beaucoup au cadre total pour la sécurité et le bien-être des petits. Et dans ce cadre, les enfants ont une liberté absolue, ce qui fait que nous, on a tendance plutôt à accompagner une initiative de l'enfant régulièrement. Si un petit s'intéresse à un type d'objet ou un type de façon de jouer, On est à côté, on est derrière, on
vous accompagne,
on valide
la spontanéité.
Et on accompagne. Oui. Okay.
Après, c'est vrai que sur les projets des enfants qui peuvent construire des projets, je pense là aux enfants, aux grands-enfants de primaire, voire les collégiens, c'est un public qu'on a un peu moins, qu'on a eu plus à un moment donné, parce qu'on était ouvert les mercredis après-midi sur le quartier. Là, c'est vrai qu'on a quand même, on est moins nombreux en termes de professionnels. On a été à un moment donné 6, ça représentait 4 temps plein. Là, on a baissé à 2,3. Donc, c'est vrai qu'on fait moins d'actions.
Vous êtes à 2,3 temps plein.
Ouais, ce qui est peu.
J'imagine
pour tout ce
que
qu'on
c'est
fait.
Fabien, le 0,3. Hein
non, mais ah, c'est vrai bon. Que voilà, c'est peu. En fait, je suis la seule à temps plein. Et du coup, on fait moins d'actions quand même auprès des plus grands. On va les croiser sur l'extérieur, mais on les accueille moins au sein de l'asso déjà parce qu'on n'a pas forcément d'espace. Alors là, on a mis un flipper quand même pour les plus grands quand ils viennent. Mais à un moment donné, ils étaient un peu plus actifs au sein de l'association avec beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions où ils écrivaient sur un tableau ce qu'ils voulaient faire. Alors, souvent, il y avait le slime. Voilà, il y avait plusieurs propositions. Et là, comme on est beaucoup plus sur l'itinérance les mercredis, on a moins de place pour ces enfants-là et pour construire avec eux. Voilà.
Associé à cette question, est-ce que vous avez des références ? Vous avez jeté 2-3 références comme Dolto Est-ce que
après,
vous associez vos méthodes
après,
à des gens
Après, on se méfie un petit peu de la place qu'ont pu prendre les pédagogies alternatives aussi, aujourd'hui. Et c'est aussi l'engagement qu'on a auprès de la CAF de dire attention, on ne fait pas trop de place aussi à des courants qui pourraient être enfermants. Ouais. Par exemple, à un moment donné, on a eu fait des ateliers de
Montessori.
Création d'objets Montessori. On a laissé la place aussi un petit peu à la parentalité créative, voilà, à des réflexions comme ça. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait être très enfermant et très culpabilisant aussi auprès des familles. Et du coup, là, on stoppe tout ça et on dit, voilà, chacun est libre de lire, de ne pas lire, d'appliquer des méthodes ou pas. Ce qui compte, c'est de pouvoir échanger. On ne va pas conseiller la violence, mais on laisse la place aux parents et à leur éducation, à leur réflexion. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure aussi d'imitation. Voilà, nous, on pense aussi à...
Vous voyez, c'est une référence, en fait, le parent. Vous pouvez avoir...
C'est la première référence pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent
venir. Mais regarde, en termes de pédagogie, histoire de montrer, c'est pas visuel, mais de définir un peu pour les auditeurs et les auditrices, quelles méthodes sont mises en place. Est-ce que si je mets mon enfant, il a 6 ans et demi, là il sort, il rentre dans l'âge de raison, donc il faut des raisonnements pour raisonner. Est-ce que vous mettez des choses en place pour que sur sa place à lui, vu que c'est le café des enfants, pour qu'il puisse avoir des raisonnements sur sa place dans le groupe. C'est ça un peu que je recherche. Quel lien vous faites pédagogiquement entre le nom, les références ? C'est quoi les liens que vous faites ? Est-ce que vous êtes en cours de construction de ces liens ?
Non, pas du tout. On y a réfléchi, on y réfléchit régulièrement, que ce soit en groupe d'analyse des pratiques ou ailleurs. On en discute beaucoup parce que ça nous passionne, en fait. Et c'est vrai que ta question me passionne. Du coup, j'ai envie d'y répondre pendant 2 heures d'affilée, mais je vais me calmer. Mais... en plus, j'ai vu un documentaire de Crowley hier, j'étais à fond. Non, mais l'idée, pour moi, c'est vraiment de laisser la place et aux parents et aux enfants. C'est-à-dire que moi, j'imagine qu'on sera toujours, on l'est, on l'était, on le sera, en deuxième main si le parent se pose des questions. C'est-à-dire que moi, je me tiens en tout cas prêt à répondre si... une maman, une question, et en sachant d'où on parle et où on est, c'est-à-dire en n'étant jamais dans la vérité absolue. C'est-à-dire qu'on dit, moi, ce que je ferais, peut-être, c'est ça. Faites-en ce que vous pensez. Donc, on se tient, et puis, dans les interactions même avec les petits, on essaie d'être le plus bienveillant, doux, calme, serein et ouvert possible. Après, si on inspire les parents, tant mieux. On parlait d'imitation, ce soit entre le parent et l'enfant, entre le professionnel et l'enfant, entre le professionnel et le parent. Je trouve que l'imitation est toujours là, donc on essaye vraiment d'avoir une posture la plus sincère, honnête et professionnelle possible, ensemble. Et on essaie de tenir comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Après,
il faut imaginer qu'on est beaucoup dans l'adaptation, en fait. Nous, on n'a jamais des groupes définis. On ne sait jamais qui vient. C'est jamais si on a beaucoup de monde ou si on a peu de monde. Alors, c'est vrai que les ateliers d'éveil musicaux du mercredi, en général, on peut dire qu'il va y avoir beaucoup de monde parce que c'est souvent ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais, en fait. On ne sait jamais comment ça va se passer, parce que nous, on est sur un espace où vient qui veut, quand il veut. Donc voilà, il y a des parents qui viennent 5 minutes, il y en a qui vont venir toute la matinée, il y a des nouveaux, il y a des anciens qui reviennent. Voilà, donc on est en dynamique constante.
On est toujours dans une dynamique. Donc c'est vrai que vu de l'extérieur et en rapport avec les grandes habitudes professionnelles de cadre et de réflexion sur l'éducation, nous, on est illisible. Et on tient à le rester, je pense.
On est constamment sur l'expérimentation. L'expérimentation de la rencontre, l'expérimentation aussi de la place que nous donne le parent auprès de l'enfant. D'accord. C'est ça, on expérimente. En fait, voilà. Et on voit qu'il y a des parents qui viennent. Des fois, on va avoir deux mamans, elles vont venir ensemble. Elles sont copines. Elles n'ont pas spécialement envie de discuter avec nous. Certains parents vont venir, ils tiennent à prendre leur café au bar, à venir discuter. Et du coup, ils laissent l'enfant complètement libre aux ateliers et limite... S'il y a besoin de reprendre quelque chose, il nous laisse le faire auprès de l'enfant.
Et, okay.
Et d'autres, pas du tout.
Donc c'est assez compliqué de manier les deux, mais assez intéressant, je trouve.
Et puis on utilise pas mal aussi la présence des stagiaires.
Oui.
On a des stagiaires en formation d'éducateur, on a des stagiaires qui sont en bac service à la personne, on a...
Qui eux amènent...
Voilà, ils amènent aussi quelque chose, où ils détectent des fois des besoins qu'on n'aurait pas forcément vus ou qu'on aurait... Voilà, et donc du coup,
civique.
Et puis ils sont aussi source, oui, service civique, source de propositions, aussi assez intéressantes, parce que bah, déjà ils sont jeunes... Et on l'est moins. Et donc, du coup, ils ont une autre façon de penser, de réfléchir. Là, nous, on a vu aussi l'évolution de par les réseaux sociaux. L'association a dû s'inscrire sur les réseaux sociaux. Mmh. On doit être beaucoup dans la communication différente, peut-être, en 10 ans. Tout change, tout évolue. Avant, il n'y avait que Facebook. C'était facile de communiquer sur nos actions. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a Instagram, il y a TikTok. Et donc, du coup, ça nous fait aussi réfléchir sur la façon dont on communique. On a aussi maintenant beaucoup de parents qui ont très peur. Il ne faut surtout pas qu'on voit les enfants. Donc, du coup, on fait attention aussi à ne pas mettre de visage, à ne pas mettre, etc. Donc, voilà, c'est des choses aussi. Notre société, elle évolue vite, très, très vite. Et les besoins des parents aussi, et les enfants aussi. On a de plus en plus d'enfants qu'on dit hyperactifs ou avec... voilà, enfin, les enfants changent. Et du coup, nous, en fait, dans tous les cas, on fait la place aux enfants. Ils sont bienvenus et on les accueille comme ils sont. Et voilà, quel que soit l'accompagnement aussi du parent...
Tout le monde est le bienvenu.
Tout le monde est le bienvenu.
Et puis on a des formations régulières vraiment adapter au mieux nos accueils. Hein, puisqu'on peut avoir des petits porteurs de troubles autistiques, on peut avoir des petits donc, TDA. Enfin, on a plein d'enfants.
Vous formez régulièrement
sans cesse
à des thématiques...
Après, on a une psychologue clinicienne qui vient nous voir tous les mois. Donc, ça nous permet aussi de réfléchir sur nos pratiques. Voilà, on fait de la supervision pour les lieux d'accueil enfants-parents itinérants, parce que c'est obligatoire aussi.
Ouais.
Donc, voilà, on réfléchit à nos postures.
C'est obligatoire
Ouais, c'est obligatoire pour l'AEP de faire des supervisions.
D'accord.
Radio Libre en Périgord.
Cette maison, on rit, on chante, Pitchoun est grand, c'est comme la maison, plein de chansons, mélodie entêtante, parents et enfants sont contents.
Dans cette maison, il y a des chansons, à la plage ou dans le quartier.
Merci l'équipe et aux stagiaires qui gèrent. c'est parti, ciao, et on fait la bise.
On va aller un petit peu sur votre mode de travail. Vous avez commencé à glisser dessus, sur le nombre de personnes. Alors, combien il y a de permanents, combien il y a de bénévoles, combien il y a de services civiques, combien il y a de personnes en stage, qui fait quoi?
Alors,
les permanents, combien?
Alors, on est quatre.
Quatre permanents.
Je suis la seule à temps plein. Pierre est à mi-temps. Fabien est à peu près à 20h. Et Estelle est à 11h semaine.
D'accord.
Estelle, elle travaille aussi dans une école à côté.
Donc c'est Estelle, le 06.
le 03. Estelle, elle vient tous les mercredis et un samedi sur deux.
D'accord. Combien vous avez de stagiaires?
Alors les stagiaires, on en a une dizaine à l'année. Dû baisser un petit peu, on peut en prendre qu'un à la fois maintenant, parce qu'il y a des matins où on n'est que sur l'itinérance, et donc dans un véhicule, il n'y a que trois places. Donc deux professionnels, plus un stagiaire ou un service civique. On ne peut pas faire plus.
Ou un service civique, voilà. Ok.
Et donc les services civiques, on en a un à deux par an.
D'accord. Et des bénévoles, vous en avez combien?
On en a entre 10 et 12. Ouais. Après, ça fluctue en fonction des bénévoles, de leur implication. Et là, on a un petit groupe qui est en train de se créer... D'accord. Voilà, d'une dizaine de personnes.
Et qui peut prendre des décisions dans l'asso? Les bénévoles, ils peuvent? Les stagiaires, ils peuvent? Les permanents, ils peuvent?
Tout le monde peut faire des propositions. Après,
les décisions.
Après, les vraies décisions, elles sont prises par le conseil d'administration.
D'accord.
Après, s'il y a des propositions, elles peuvent remonter au conseil d'administration. Elles sont étudiées aussi avec l'équipe. Après, décision, comme là, par exemple, il a été décidé de faire un LAEP. C'est parce qu'il y a eu des besoins qui ont été vus auprès des familles, qui sont remontés, qui ont été proposés aussi avec les institutions, qui ont été travaillés avec la CAF, etc.
Oui,
voilà, ça reste collectif. Là, bientôt, on renouvelle notre agrément, ça va être travaillé avec les bénévoles.
Et les adhérents? Les adhérents,
ils peuvent
sur
proposer...
Sur les orientations budgétaires, peut-être? Les adhérents,
non, on n'a pas beaucoup d'adhérents qui viennent faire des propositions sur les orientations de l'association.
Je pose la question de ça sert à quoi d'adhérer en fait si je peux pas avoir deux places dans les décisions?
Place. En fait, on les écoute. Il y a peut-être 400 adhérents, ça fait déjà beaucoup de monde. Nous, on est à l'écoute de leurs propositions. Généralement, ça se passe bien. Comme là, la proposition de faire des repas, c'est des adhérents qui ont proposé
de
rouvrir le dimanche matin. Nous, on avait dit, on ne travaille plus le dimanche matin, on avait fermé l'asso. Là, il y a des bénévoles et des adhérents qui ont dit « on aimerait bien que ça rouvre ». La décision, elle a été prise que finalement, on va rouvrir.
Vous avez 400 adhérents et 10-12 bénévoles.
Oui.
Oui.
Il y a un pont entre les deux.
Il y a un pont, après...
Oui, je suis embêtant, c'est pas le plus important dans le
Et après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de propositions, parce que souvent, ce qui ressort, c'est quand même des propositions. C'est pas forcément sur l'orientation. On entend beaucoup des propositions de « mais pourquoi vous faites pas tel atelier ?»« Mais pourquoi vous allez pas à tel endroit ?»
C'est quelque chose
d'ailleurs, si on
personnel.
Écoutait tout, on aurait plus de repos. Hein. Mais c'est vrai qu'on a été ouvert aussi les dimanches. Malheureusement, on peut plus ouvrir les dimanches. Mais bon, là, comme on a des bénévoles qui arrivent et qui s'engagent à être en soutien, on se dit, on étudie le besoin et puis on se dit, on va y répondre. Pas tous les dimanches, mais on va y répondre. Parce que c'est important d'écouter les propositions et qu'elles fassent vivre l'association. Mais après, il faut aussi que les propositions, elles n'oublient pas le collectif. Parce qu'après, l'individuel peut venir bloquer le collectif. Parce qu'on a eu des parents qui ont dit à un moment donné, mon enfant, il a grandi, il faudrait faire telle proposition pour mon enfant. Oui, mais il faut qu'on ait plusieurs grands pour proposer aussi des choses pour les grands.
On reste à 2,3 temps plein.
C'est vrai que nous, on est...
Ce qui est déjà bien, franchement,
oui,
c'est déjà
mais
bien.
Mais on ne peut pas faire beaucoup plus non plus. On est obligé d'avoir la décision finale avec le CA Parce que si on écoutait tous les adhérents et adhérentes, ben en fait, on ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses.
Et c'est vrai qu'il faut quand même rester sur ce pour quoi on s'engage aussi, sur des financements, ouais. Puisqu'on est, après tout, maintenant, des services quand même qui sont des services de la CAF. Voilà, on n'est pas salarié par la ville et par la CAF, mais on est des services quand même financés.
Ah oui.
Et avec des missions.
Vous devez répondre
de services publics et pas de services privés et privatifs.
Avez-vous des liens avec d'autres réseaux, avec d'autres partenaires, d'autres structures?
Bah, je le disais, on fait partie de la Fédération internationale des cafés des enfants et ça, c'est une vraie richesse de savoir ce qui se passe dans d'autres villes, de pouvoir échanger sur des thématiques et de se rendre compte que finalement, c'est les mêmes questions qu'on se pose. Et là, par exemple, il y a une prochaine réunion qu'on fera sur la question de l'accueillant. Comment on se définit en tant qu'accueillant? Comment on accueille l'autre? Comment on accueille tout le monde?
Avec d'autres assos, vous allez faire ça?
Avec les autres cafés des enfants, ouais. On fait des temps de réunion en visio.
Ah, très sympa.
Voilà. On a eu quelques vrais temps de rencontres, mais c'est compliqué parce que la France est grande et qu'en fonction d'où on se retrouve, ça demande des moyens.
Et du coup, dans cette fédération, il y a combien de joueurs?
De Café des Enfants,
ouais.
Là, on est une vingtaine pour l'instant répertoriés. Enfin,
est-ce que c'est que sur l'Hexagone ou est-ce qu'il y en a dans les Dom-Tom?
Non, pour l'instant, on est vraiment tous sur la France. Il y en a en Île-de-France, il y en a à Grenoble, il y en a à Nantes. Il y en a 5 ou 6 sur les Hauts-de-France. Et puis, il y a pas mal de porteurs de projets aussi, de gens qui veulent faire Café des Enfants. Et on a malheureusement aussi des Cafés des Enfants qui n'existent plus parce qu'aujourd'hui, la vie des associations est compliquée,
ouais,
voire très compliquée.
Ouais.
Financièrement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour fonctionner. Et puis porter une association, c'est lourd. C'est lourd sur les temps de réunion, c'est lourd sur les temps de rencontre avec les politiques, sur convaincre, etc. Et puis ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'implication,
ouais, beaucoup
et qui peut fatiguer aussi, je pense, certains.
Est-ce que vous avez observé des choses qui font doublon? Est-ce que, sans parler de concurrents, mais est-ce qu'il y a des autres assos, des autres structures qui font un peu comme vous, un peu comme les autres? Est-ce que vous percevez qu'il y a des fois un millefeuille qui est en train de se créer sur des réponses?
Alors moi, je pense que c'est une richesse. Plus il y a de propositions, mieux c'est. Parce que ça veut dire que les parents, pendant un temps, ils peuvent venir à Pitchounégrand parce qu'ils aiment bien les supports d'activité. Et puis à un autre moment, ils vont aller sur d'autres associations. Je parlais qu'il y avait un LAEP qui est en plus sur le même quartier que nous. Mmh. Et les familles vont aller là. Souvent, en plus, elles font plusieurs espaces parce qu'en plus, on a la richesse de ne pas être ouvert sur les mêmes créneaux horaires. Donc ça propose des temps, des choix. Il y a la bibliothèque aussi qui propose des choses pour les tout-petits.
La ludothèque.
Il y a quand même pas mal de propositions, je pense, sur le Bergeracois. Et je trouve que ce qui nous rend pas concurrents, c'est le fait de pouvoir échanger aussi sur ces temps, sur ces propositions, parfois de travailler ensemble. Je pense à la ludothèque. Des fois, on fait un même espace commun. Par exemple, l'éveil lumineux, on va à la ludothèque, on propose de l'éveil lumineux, où ils peuvent venir aussi à l'association, et là on met nos forces communes.
Vous voulez pas en créer un autour de chez moi? Hein?
Non. L'éveil lumineux.
Non, mais un café des enfants. Je vous dis, parce que comme je connaissais le café Zoïde, je trouve que l'idée elle est hyper pertinente.
Il y a la chrysalide à Périgueux.
Oui.
Aussi qui est là.
Ah, c'est une question de sous aussi, on veut bien, mais c'est toujours une question de sous à la fin.
Du coup, alors, quel est l'avenir de l'asso? Quels ateliers vous prévoyez pour l'année qui vient? Est-ce que vous allez embaucher un salaire un quart de plus?
Ben, en fait, nous, l'avenir dépend surtout de l'argent, des financements. Et malheureusement, c'est vrai que nous, depuis le début, on fonctionne beaucoup avec des postes aidés, des contrats aidés. On avait eu 2 postes adultes relais qui nous ont permis, à un moment donné, d'être 6 à travailler, dont ça faisait 4 temps plein. Et là, du coup, on s'était exporté même jusqu'à Montpon. Travaillait avec le RPE de Montpon, de Mussidan. On travaillait à la crèche de Mussidan. On allait beaucoup aussi à l'espace de vie sociale, soutien et partage évasion de Ville-en-Blard, avec lequel on aimait beaucoup travailler. Et on proposait des prestations de services, c'est-à-dire qu'on se rémunérait, on était un peu rémunérés, mais ça permettait aussi des échanges, des partages.
J'adorais le travail en partenariat avec la crèche. Hein.
C'était super. Mais là, malheureusement, c'est des choses qu'on a dû énormément baisser. Pareil, le fait d'aller devant les écoles de Bergerac, c'était quelque chose de vraiment chouette pour nous. Mais on ne peut plus, malheureusement.
Ouais.
Voilà, c'est vrai que là, on a dû revoir à la baisse, parce que nous, on ne manque pas d'idées, de projets. Et je pense que ce qu'on fait le mieux, ce qu'on fait bien aussi, c'est ça, c'est se dire, voilà, on prend des véhicules, parce qu'on a de la chance d'avoir 3 véhicules, on les charge de matériel, on se pose dans des espaces publics, dans des espaces où les familles passent. Et là, il se crée des choses. Des jeux, des rencontres, des rires, des... Voilà, parfois des discussions, des grandes discussions, parfois, enfin, juste le fait d'être là ensemble, il y a...
Qu'est-ce qui manquerait là-dedans, je sais pas moi, dans votre organisation, à part l'argent? Est-ce que vous avez repéré des choses sur le territoire de Bergerac, de choses qui manqueraient comme action?
Ben, moi, je pense que les actions d'aller vers, c'est vraiment quelque chose qu'il faut refaire énormément. Hein. C'est la base des éducateurs, d'ailleurs. Hein. L'éducation populaire, c'était ça, c'était l'aller vers. Et là, il va falloir y revenir de plus en plus, parce que la question du téléphone, la question de l'isolement, la question du rejet de l'autre, la question du communautarisme explose en ce moment. Et du coup, je pense que le lien social, le vivre ensemble, on en parle beaucoup, souvent, mais on n'est pas très fort aujourd'hui, je crois, en France, à ce niveau-là.
D'accord. Donc il manquerait quoi? Du personnel?
Nous, il nous faudrait du personnel, ça c'est vraiment une base, il nous faudrait du personnel pour continuer nos actions, parce qu'on a le matériel, on a les véhicules, ce qu'il faut c'est du temps, et après c'est expérimenter. Moi je parle, pour moi l'expérimentation c'est super en fait, parce qu'on va dans un espace, au départ on y va avec peu de matériel, pas grand chose, et puis après on se dit bah tiens on va amener ça, tiens on va prendre du café, bah tiens il manque un espace bébé, allez hop on amène des tapis pour les bébés, oh tiens les bulles géantes ça marche bien, bah maintenant on en fait tout le temps, bah tiens les petites voitures c'est chouette, mais faut pas tout le temps les mettre, parce que après ça vient freiner les autres espaces un peu plus collectifs. Et voilà, c'est tout ce genre de réflexion et de mouvement qui crée la vie et dont on a besoin pour nos quartiers.
Ouais. On va glisser vers une autre pause musicale. Donc, ce serait celle-ci.
RLP.
Ils ont des points communs. Les animaux. Encore un cœur des eaux.
Retour sur l'alternative, sur RLP.
Radio Libre en Périgord.
Vos grosses actions l'an prochain, alors c'est l'aller vers, vous continuez à bouger en minibus, c'est ça? Et vos autres actions d'ouvrir un peu plus les week-ends, je sais pas.
Là, il y a quelques dimanches qui sont proposés par les bénévoles, donc on va se saisir de cette proposition-là. Et peut-être on refera, c'est vrai qu'on on le fait pas cette année, mais une rue aux enfants.
Une rue aux enfants.
Ou une rue aux enfants.
Génial, ouais.
Voilà.
Oui.
Donc il faut, mais bon, il nous faut de l'énergie.
Avec des formes de kermesse, des...
Ouais, bah avec après... plein de petits postes, donc d'ateliers, motricité, il peut y avoir plein de choses.
Ça, c'est génial. Le 20e arrondissement, ils ont fait un truc là-dessus excellent. Ils ont renommé les rues, ils ont fait des petits ateliers de fabrication, des ateliers de jeux pour les petits. Génial. Tu ne faisais pas 5 mètres sans découvrir un truc. Même en étant éducateur, j'ai appris, sur la centaine de mètres, j'ai appris, j'ai gagné un an presque à chaque fois. C'était génial. Vous êtes situé où ? Parce que vous n'êtes plus dans une maison, vous êtes où ? Au 9e étage d'une tour, c'est quoi ?
On est en dessous de la tour. En dessous de la tour de Jean Moulin. Ouais.
En bas de la tour ?
Ouais, on est en bas de la tour de Jean Moulin.
Donc à Bergerac, sur le quartier Jean Moulin.
Quartier Jean Moulin à Bergerac, quoi. Okay. En face de la station Avire.
Et comment on fait pour vous contacter ?
Eh bien, on a un 06.
Est-ce que vous voulez le donner là ou ça reste secret ? Vous
ah avez non, on peut le donner. On peut donner le numéro déjà. 06 29 86 76 80. Et on a un site internet, c'est pitchounegrand.com. On a une page Facebook, on est sur Instagram et sur TikTok aussi. Donc il suffit de taper pitchounegrand et on nous retrouve assez facilement.
Est-ce que vous avez des supports vidéo qu'on pourra voir sur le site ?
Il y a des petites vidéos, mais c'est des petites vidéos sur... TikTok. Voilà, des petits montages
vous êtes
comme
sur
ça.
TikTok ?
Ouais.
Cool.
Où on voit justement tout ce qu'on fait.
Ouais, l'idée, c'était aussi d'atteindre les très jeunes parents, une nouvelle génération sans doute, parce qu'on est vieux maintenant. TikTok, pour nous, c'est incroyable, alors que pour vous, les petits jeunes, là, c'est TikTok, vous êtes nés avec, limite. Mais oui, on se dit que là, on peut toucher des jeunes mamans.
Mais dis-toi que nous, on a eu la chance de voir le bébé de la révolution numérique que eux n'ont pas vu. Ils arrivent, tout est déjà entré dans la révolution.
C'est vrai, on a vu la naissance. Hein.
On a vu la naissance. On vit un moment, la même chose que la roue pour l'humanité, ce bouleversement-là qu'on a vécu, on n'avait pas de portable, fallait marcher des fragonards au 105 pour aller voir son pote.
Les cabines téléphoniques et le Minitel, on l'a vécu.
Ouais. On a cette chance-là, nous.
Est-ce que
vous avez des documentaires à nous conseiller, des lectures à nous conseiller ? Des chansons à nous conseiller.
Non, mais parce que là, il faut refaire une émission complète pour ça.
Deux, trois documentaires. Tu parlais d'Ovid Décroly.
Oui, mais alors c'est un documentaire très...
C'était quoi le documentaire ?
Bah, c'était sur les écoles de Crowley. Je crois qu'il y en a une en Belgique. Moi, j'en ai visité une avec mon école. Je trouvais ça génial de voir des petits. Et génial et effrayant de voir des petits qui fonçaient vers des ateliers menuiserie où il y avait des scies plus grosses qu'eux. Et donc les voir, mais sans accompagnant adulte. C'est-à-dire qu'il y avait des adultes à des points qui discutaient, qui buvaient un café, et on voyait les petits en groupe qui fonçaient vers les ateliers menuiserie, puis ensuite qui fonçaient vers les ateliers jardinage, qui avaient des plans, ils avaient des projets, mais personne ne savait quel plan et quel projet à part eux. Et je trouvais que cette prise d'autonomie et ce travail en communauté d'enfants, je trouvais ça magnifique.
Ouais.
Voilà.
Ok, est-ce que vous avez des lectures à nous conseiller ?
Ben, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, dont on parle de moins en moins, les éducateurs, mais qui, à un moment donné, était très à la mode, c'est l'empathie. Mmh. Et je pense qu'on a tous besoin d'empathie pour comprendre, se comprendre les uns les autres. Et que voilà, les familles, elles sont toutes différentes et elles ont tous des points forts et des points faibles. Et qu'il ne faut pas oublier de penser, voilà, si on était à la place de cette famille aussi, comment on réagirait ? Parce que souvent, on va se dire, c'est comme ça qu'il faut faire, mais on n'est pas à la place des uns et des autres. Et chaque culture a sa richesse.
D'accord. Et vous ferez, vous, des ateliers là-dessus ?
Alors, à un moment donné, on a eu la chance d'avoir des ateliers philo faits au sein de l'association.
Cool.
Par des personnes qui étaient en formation, qui sont venues les animer. Et je pense que peut-être que si on avait la possibilité, ce serait intéressant de les reproposer. Voilà, okay. C'est des temps d'échange entre enfants sur des thématiques et ça leur permet de s'écouter et de réfléchir ensemble.
Ok. J'étais contente de vous recevoir. Si je devais synthétiser, moi, l'émission, je mettrais que pour les enfants, vous travaillez beaucoup l'accompagnement à la spontanéité. Et pour le reste du groupe parents-enfants, vous êtes un laboratoire de vie sociale. C'est un petit peu comme ça que je l'ai perçu. Et que vous défendez beaucoup le aller vers les autres. J'étais content de vous... Pardon.
Non, ben c'est juste pour compléter par quelque chose qui me paraît important, c'est que Epichun, ça peut être aussi vu, tu me dis hein, si je dis des bêtises, mais je crois que ça peut être aussi vu comme une plateforme vers d'autres centres plus spécialisés. C'est-à-dire que nous, on a des adresses, parce qu'on travaille beaucoup en réseau, avec s'il y a une problématique particulière avec un enfant, un parent qui est angoissé ou stressé par une situation particulière qu'il vit, nous, on peut être relais. Il y a ça aussi que je pense important à dire.
Ah ouais, c'est intéressant. Oui.
Vanessa, voilà, tu veux... Oui, je trouve ça intéressant. Après, moi, je pense que la question du regard aussi, elle est intéressante. Voilà, nous, on regarde les gens sans jugement
oui.
et avec acceptation voilà, de chacun. Et je me disais, je ne sais pas, on a la chance d'avoir deux grandes qui ont pu profiter de l'ensemble des propositions de Pichoun et Grand. Peut-être que vous avez des choses à dire. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Qu'est-ce que tu as fait à Pichoun et Grand ?
Moi, sur Pichoun et Grand ?
Oui.
J'ai vécu, j'aime beaucoup les jeux. Il y a beaucoup d'animations, c'est bien.
Est-ce que tu as appris des choses en allant à Pichoun et Grand ?
Oui, parce que Pierre, il est très enrichi, surtout.
Ouais.
Fabien aussi.
Qu'est-ce que tu aurais appris ? Maman, non ? Tu la laisses de côté.
Non, non, si, si, mais...
Ah, mais les apprentissages de maman, c'est le sens.
Collègues.
D'accord.
Par exemple, Estelle, elle va tout le temps en vélo, ça, je trouve, c'est bien.
D'accord.
Après, sur Pichoun et Grand, j'aime beaucoup les jeux.
D'accord.
Ouais, c'est bien, il y a beaucoup de jeux, c'est... Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'activités.
Est-ce que vous allez en colo, les filles ?
Non, moi, j'aime pas trop la colo.
Ah bon ?
J'en ai jamais allé.
Tu préfères avoir le ouais. lieu comme ça où tu peux rentrer chez toi le soir, mais où tu peux profiter de jeux
Ben, moi, je trouve la colo, c'est... Tu connais presque personne quand tu y vas. T'as beaucoup de monde et c'est cadré. T'as des activités à telle heure. Moi, je préfère quand c'est un peu plus libre.
D'accord. Alors, j'ai donné une adresse sur YouTube à Pierre. Vous irez voir ce que je fais. J'ai monté une petite chaîne YouTube sur les pédagogies actives. Et les colos que je fais, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout cadré. Vous verrez l'histoire de la décision.
Ah, c'est intéressant, je vais le regarder vite.
Voilà. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation, c'était très intéressant. J'espère que je vais pouvoir avoir d'autres personnes, d'autres cafés pour enfants, pour pouvoir faire des points de comparaison. Moi, j'adore cette idée là de poser, c'est pas du centre de loisirs, c'est pas du centre d'éducation... C'est une espèce d'agglomérat de plein de propositions. Mais merci. J'espère que l'émission vous servira, vous donnera un peu de visibilité. Bonne merci. Continuation, merci. Pardon, à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Radio Libre en Périgord.
L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard. Mais à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées. On sait plus comment s'orienter.
Radio Libre en Périgord.